Chapitre 4. Julien de Subersault avait quitté le bal au moment où, le cotillon fini, on commençait à installer les tables du souper. Telle était la volonté de Maud qui lui avait jeté à l'oreille cet ordre bref. « Rentrez chez vous le plus tôt possible, je ne tarderai pas. » Elle savait bien qu'avec une telle promesse, il obéirait. Il regagna son logis à pied, le long des grandes avenues, paisibles à cette heure matinale, comme les allées d'un parc. Sur le fond de noire amertume dont la nuit, passée si près et si loin de Maud, avait empli son cœur, la radieuse aurore faisait jouer sa gaieté victorieuse. Quel homme jeune, aimant une femme et s'en sachant aimer, peut rester triste en face d'un beau matin de printemps? Puis il pensait, elle va venir, et trop d'émoi toujours tressaillait à cette pensée dans son cœur, dans sa chair, pour qu'il pût vraiment rêver à autre chose qu'à sa prochaine venue. Rue de la Baume, dans le petit hôtel recueilli, aux jalousies closes, aux rideaux tirés, aux escaliers silencieux veillés par des lampes voilées, il retrouva la nuit, alourdie par le sommeil matinal des riches. C'était la nuit aussi dans son appartement. Il dut réveiller son valet de chambre, roulé dans une couverture sur le canapé de l'antichambre. « Allumez dans mon cabinet de toilette, Constant. Mettez de l'eau chaude, préparez le tub. » « Est-ce que monsieur va se coucher ?»« Non, je ne sais pas. Enfin, faites ce que je vous dis. » Constant, ayant reçu la canne, la pelisse et le chapeau de son maître, le précédait dans le salon, éclairé par la braise d'un feu dormant, et se disposait à ouvrir les fenêtres. « Qu'est-ce que vous faites ?»« J'ouvre, monsieur. »« Non, n'ouvrez nulle part. Allumez les lampes, ici aussi. » Cette ouate d'ombre recueillie où il trouvait son home l'avait caressé. Il voulait y demeurer jusqu'à la venue de l'aimé. Quelques minutes plus tard, il fut seul dans son cabinet de toilette. Jamais il ne se faisait aider par Constant. Il avait cette horreur instinctive du contact des hommes sur la peau nue, cette bizarre pudeur d'être vu par eux et de les voir, qui caractérise ceux pour qui la femme est le tout de la vie. D'un seul corps masculin, il aimait contempler les lignes harmonieuses, la pâleur ambrée, les mouvements souples. Et ce corps, c'était celui qu'en ce moment reflétait, sous la pluie d'un arrosage tiède, le grand panneau de glace occupant tout un côté du cabinet de toilette, c'était le sien. Il soignait ce corps minutieusement, culte raffiné du soi physique, dont la vue ou le récit exaspère les autres hommes, leur apparaît comme une marque d'infirmité virile, ce qui est loin d'être vrai. Le goût de la beauté et le souci de la force s'unissent le plus souvent. Tel Julien. L'attirail quasi chirurgical de lime, de pinces, de ciseaux, de brosses en crin, en peau, en velours, de peignes d'écailles chiffrées d'or qui s'étalaient sur deux tables, l'appareil compliqué d'hydrothérapie élégante dont les nickels et les cuivres étincelaient sous le feu nu du gaz, la finesse brodée du linge multicolore, depuis le peignoir jusqu'aux serviettes à ongles, l'innombrable quantité de flacons de cristal taillés, capsulés de vieil argent, tout cet arsenal, dont l'objet était le soin d'un corps masculin, eût donné matière à bien des colibés et fait dire à bien des hommes « Quelle femmelette !» Au vrai, nul n'était plus exercé à tous les sports que cette femmelette, nul n'était plus brave devant un pistolet ou une épée. Arrogant et provoquant avec les hommes, c'était justement les femmes qui le maîtrisaient et le menaient à leur gré. En chemise de soie sous le complet de laine des Pyrénées, il traversait la chambre à coucher, regagnant le salon. Il se baissa pour saisir un des haltères disposés au pied du lit, le manœuvra avec une régularité de professionnel et, satisfait du jeu souple des muscles, rentra dans le salon. Les lampes y éclairaient l'amoncellement des bibelots, des sièges, des tentures. Julien regarda sa montre. 8h05. Il sonna Constant. « Monsieur ?» Constant, madame va venir tout à l'heure. Vous préparerez le samovar et des gâteaux dans la salle à manger. Puis vous remonterez dans votre chambre, vous y resterez jusqu'à ce que je vous sonne. Constant salua et sortit. Resté seul, Julien disposa des coussins en oreiller à la tête du canapé, s'allongea et rêva. Elle va venir. Il essayait de se la représenter tout à l'heure, soulevant la grande verdure qui drapait la porte. Mais non, ce n'était plus ainsi qu'il la voyait. trois étages d'une maison douteuse, rue de Berne, l'antichambre, la salle à manger de l'appartement des Tiennettes, puis leur nid, l'ancienne chambre de Suzon, si personnellement transformée par Maud. Entre le départ et le retour de Chantel, il avait vu là presque régulièrement, un jour sur deux, parfois deux jours de suite, Maud ayant compris qu'elle le tenait ainsi dans le plus étroit esclavage, prise elle-même, du reste, insensiblement, aux besoins des caresses. Sa maîtresse, non pas. Une sorte de fétichisme de loyauté, comme en nourrissent toutes les âmes un peu hautes en lutte théorique avec l'ordre social, lui faisait réserver jalousement le suprême baiser pour l'homme qui allait lui donner son nom et sa fortune. Dans l'orgueil de sa supériorité, elle pensait « Il restera encore mon débiteur après !» Leur caresse singulière, point rare pourtant dans une société décrépite où les mœurs et les doctrines se contredisent tout en proclamant l'accord, avait, pour ainsi dire, pris au rebours le procédé de l'amour humain, et vraiment, ce pèlerinage était si passionné qu'il l'oubliait sincèrement et ne souhaitait point l'arriver. Qu'importait à Maud ? Elle ignorait. Qu'importait à son amant ? Il pensait chaque fois obtenir d'elle le don complet, et chaque fois, elle le laissait griser et satisfait de ce qu'il avait reçu. Ainsi, les mois de février et de mars, il avait vécu dans une sorte d'ébriété amoureuse qui lui ôtait jusqu'au souci du lendemain. Étendu, les yeux fermés, il continuait maintenant ce rêve, glissé peu à peu au sommeil. Les voluptueuses évocations se mêlaient, s'enchevêtraient dans les mauvais ressouvenirs, des morsures de jalousie le tenaillaient, un poids lui opprimait le cœur, un poids de rancune, de mélancolie. Vivre sans elle, non, plus jamais. Plutôt ne plus vivre, plus voir de soleil, de claires matinées, de jours de neige, de soirs illuminés de Paris. Tout se brouillait, se confondait. Il plongeait dans la grande nuit incertaine où les désespérés cherchent l'oubli de l'insupportable et cette nuit vide, hélas, était encore pesante à son cœur endolori. Puis, comme si, ayant touché le fond de l'abîme, il remontait lentement vers la clarté de la vie, son cœur peu à peu s'allégea, une vapeur d'alanguissement l'enveloppa, son cerveau, tout son corps, s'imprégnèrent d'un bien-être grandissant, délicieux. Il entr'ouvrit les yeux, le rêve s'était fait chair. Maud était debout près de lui, ses doigts nus posés sur son front. Il se redressa. « Oh, c'est vous ? Pardonnez-moi, je me suis étendu là et je crois que j'ai dormi. Mais je vous pressentais dans mon sommeil et cela me faisait tant de bien. » « J'ai deviné, répondit-elle, vous aviez de mauvais songes car votre figure était toute contractée. J'ai mis mon doigt sur votre front et j'ai conduit votre rêve où j'ai voulu, à moi. » Elle fit descendre sur ce front la fraîcheur de ses lèvres, puis, échappant dans l'embrassement qu'il cherchait, « Mais pourquoi tout est-il fermé ici ? Savez-vous qu'il est 9 heures passées ? Ouvrez-moi vite ces fenêtres !»« Oh, Maud ! » pria l'amant, « j'aime tant cette nuit !»« Non, non, ouvrez ! Ne voyez-vous pas, ajouta-t-elle en souriant, que je suis vêtue pour l'heure qu'il est ?» Son enjouement cachait une gêne réelle à se trouver, dans ce décor du soir, habillée pour la sortie du matin, jupe droite en grosse cheviotte bleue, cerclée de velours, boléro pareil sur une chemisette de satin et coiffée d'une toque d'astrakhan bleu à voilette blanche. Julien obéit à regret. Il ouvrit les deux fenêtres, poussa les persiennes, tandis que Maud tournait la clé des lampes. Le jour entra, clair et joyeux, chassant la vapeur de mystère, l'air d'apparition qui flottait autour des globes. « Bon, fit Maud, maintenant, asseyez-vous près de moi. J'ai un tas de choses à vous raconter. » D'abord, Mathilde est morte. Ah, fit Surberceau, c'est ennuyeux. Nous ne pourrons plus. Elle est morte ce matin vers 7 heures. Elle avait déjà perdu connaissance quand on est venu chercher Étiennette. Nous sommes arrivés vers 8 heures, Paul le Tessier et moi. Le brave Paul était aussi troublé que si la mort de Mathilde l'eût fait veuf. Julien, hanté par son unique souci, demanda : Alors, nous nous verrons ici ? Ou bien faut-il que je cherche un autre endroit ? Quel enfant ! Interrompit Maud en lui tendant à baiser son poignet nu. On ne peut pas vous parler sérieusement. Vous ne m'écoutez pas. Et après un temps de silence, où elle ne regarda pas les yeux de son amant, elle ajouta, d'un ton lassé qui ne lui était pas habituel : Soyez bon pour moi. Si vous saviez comme je suis nerveuse aujourd'hui !» Elle appuya sa tête sur la poitrine de Julien et, rendue plus femme, plus caressante par la pensée du chagrin qu'elle allait causer à cette amie irrésolue, elle entrouvit la soie de la chemise et posa ses lèvres sur la place du cœur. Ils s'alanguissaient tous les deux. « Viens » implora-t-il. « Non, ce matin, je suis ici pour parler de choses graves. Vous devinez ce que c'est. J'ai autorisé M. de Chantelle à venir, cet après-midi, demander ma main. » « Ah !» fit Julien. Il s'étonna de ne pas souffrir, et Maud aussi fut surprise de le voir si calme. Elle poursuivit. « Il nous semble, à lui et à moi, qu'il vaut mieux, la chose une fois décidée, la terminer le plus tôt possible. Nous nous marierons certainement avant la fin d'avril. » Lentement, Julien sentait sourdre une angoisse. Cela n'était presque rien encore, mais cela grandissait, grandissait. Il ne répondit pas. Maud continua. Jusque-là, vous comprenez, je dois me garder des curiosités, des malveillances d'amis. Ce mariage enrage trop d'envieuses. Maxime ne connaît personne et ne se soucie de voir que moi. Aucun péril à ce qu'il demeure à Paris. Mais moi, avec maman et Jacqueline, j'irai passer ce mois en Chamblay. Oh, je viendrai presque tous les jours, tu comprends, poursuivit-elle en prenant les mains de Julien. Le trousseau, les toilettes, l'installation. Seulement, j'habiterai officiellement Chamblay, où Étiennette restera avec nous pendant les premières semaines de son deuil. Nous serons chez nous, les Letessier n'y viendront qu'en visiteurs. Je trouve cette combinaison excellente. Mais qu'est-ce que tu as ? Julien s'était levé au dernier mot et, toujours silencieux, se promenait maintenant à pas irréguliers dans la pièce. L'angoisse montait à sa gorge, lui obstruait la respiration à l'étouffer. Il revint s'arrêter devant Maud. « Alors, c'est fait ?»« Oui, en principe, c'est fait. Je ne pense pas que cela te surprenne. » Elle lui dit cela hardiment, les yeux dans les yeux, en cette attitude redressée qu'elle prenait contre toute entrave à ses décisions. Mais lui ne résistait pas. Il s'était assis sur le coin de la table, morne, accablé. Elle le guetta quelque temps, parée à la défense. Puis, comme il ne disait rien, ne bougeait pas, elle voulut, comme tant de fois, ressusciter son courage. S'approchant de lui, elle lui dit à voix basse « Sois fort, je n'aime que toi !» Il ne l'entendit pas, sans doute, abîmé dans ses pensées. Il balbutia « Ce n'est pas possible !» L'horrible angoisse lui avait poignardé le cœur, et pour la première fois, le mariage de cette femme, chère de sa chair, avec un autre homme et consenti par lui, lui apparut chose hors nature, monstrueuse, pas vraie. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il répéta. « Ce n'est pas possible, nous ne ferons pas cela. » Il passa sa main sur son front, écartant ce voile de cauchemar. « Ce n'est pas possible » répéta-t-il une troisième fois d'une voix sans accent qui ne signifiait ni l'ordre ni la prière, l'expression d'une évidence seulement. « Voyons, Maud, je t'aime, je n'ai que toi au monde, et tu m'aimes, je suis sûr que tu m'aimes. Et moi, je suis ta chose, je suis tout à toi, je ne suis qu'à toi, je ne peux vivre hors de toi. Nous sommes des fous, nous nous trompons. » Maud, presque durement, lui répondit « « Je ne suis pas folle, moi, c'est toi qui divagues. » « Mais comprends donc, reprit Julien, que ce que tu vas donner à un autre, c'est tout de même ce qu'il y a de plus précieux. Tu seras sa femme malgré tout. Tu m'as accordé juste de quoi désirer ce que tu lui donnes. Et puisque tu m'aimes, il faut m'appartenir. Je vois cela clair, clair, comme le jour qu'il fait. » Et se rapprochant d'elle, plus pressant, « Nous avons été des fous, oui, des fous, toi et moi. » je ne veux pas que notre thé, toi que je n'ai jamais eu. Cela ne sera pas. Laisse-moi te garder, je changerai ma vie, je travaillerai, je te ferai reine aussi, mieux que cet imbécile qui ne te comprend pas. Tu ris de ce que je dis ? Ah, je saurai travailler, va, pour te garder. Je ferai n'importe quoi, mais je te garderai. Je volerai, je tuerai, mais je te garderai. Ah, reste, reste-moi. Je ne peux pas. « Je ne peux pas !» Il s'abîma aux pieds de la jeune fille, baisant ses pieds, roulant son front dans sa robe, enlaçant les jambes rondes sous l'étoffe. Il ne pleurait pas, mais des sanglots sans larmes le secouaient. Il sentit la main de Maud qui le repoussait par l'épaule, fermement, de toute la force de ses nerfs contractés. Blessé à son tour dans son orgueil, devinant qu'il se perdait en suppliant, il se releva. « Est-ce fini ?» demanda Maud d'un ton de mépris. « Ce n'est pas fini, » répliqua Julien. « Ce qui est fini, c'est cette comédie de mariage. Cela ne sera pas, tu entends ? On ne se joue pas d'un homme comme tu t'es joué de moi. « Je ne veux pas de ce rôle, » continua-t-il, exaspéré par l'ironique silence de Maud. « Je ne veux pas n'avoir été... » Il haletait de colère et les mots se faussaient dans sa gorge. « De n'avoir été qu'un allumeur !»« Ah, misérable !» Elle lui jeta sa main à la volée sur la bouche, comme pour y aplatir et y rentrer l'insulte. Mais Julien saisit cette main, la serra contre ses lèvres. De l'autre bras, il encerclait la taille de la jeune fille et maintenait ainsi ce corps révolté, agité de soubresauts, tandis qu'il lui disait, si près du visage qu'elle sentait l'effleurement des lèvres, « Non, cela ne sera pas. Il faut que tu sois à moi. Tu as cru vraiment que je te laisserais aller ? Jamais. Tu es à moi, je te veux, je t'aurai même de force. » « Lâche, lâche !» fit Maud. « Laisse-moi !» Il la serra plus fort, elle se sentit portée vers le canapé où les coussins recevraient sa chute. L'idée qu'elle allait être prise malgré soi, possédée par la force, éperonna si rudement son orgueil qu'en cette minute, elle haït Julien. De ses bras arc-boutés, de ses jambes violemment croisées, de ses ongles et de ses dents, elle se défendait, ne sachant même plus ce qu'elle défendait, emballée dans la lutte instinctive de la Vierge contre cet homme, presque son amant, tant de fois déjà. Lui, la tête perdue, vraiment frappé de frénésie, donnait toute sa force, insensible aux morsures et aux déchirures. Soudain, Maud poussa un cri. Sa main, que Julien appuyait contre sa gorge dans le désordre de la lutte, avait touché l'ardillon de la broche. Le sang coula de la peau déchirée. Julien, aussitôt dégrisé, lâcha prise. Ce ne fut qu'une seconde, mais quand il voulut la reprendre, elle était à l'autre bout du salon, renversant entre elle et lui les meubles en barricade. « Maud, voyons !» dit Subersault, plus brisé qu'elle par cette lutte. « C'est de la folie. Pourquoi ? Pourquoi pas ?» Il n'osait l'approcher, hypnotisé par ce filet sanglant qui filtrait sur la peau blanche et bientôt s'étalait sur le dos de la main. Maud, sans le quitter des yeux, ouvrit la fenêtre. « Je te jure, » dit-elle, la voix coupée par le halètement de sa respiration, « que si tu m'approches, je saute par là. Si je me tue, tant pis. Mais je ne me tuerai pas, ce n'est pas assez haut. Je t'échapperai, je ne te reverrai plus. « Jamais, jamais, je te le jure !» Il fit tout de même un pas vers elle et aussitôt râla un cri de détresse. Elle s'élançait. « Maud, me crois-tu à présent ?» lui dit-elle au bord du vide. Il recula, il s'effondra sur le canapé, le front dans ses mains. Il était vaincu, décidément. Il l'aimait trop. Elle était sa maîtresse, effroyablement, il devait obéir. Des larmes, pareilles à celles que verse une femme qui vient d'être sauvée d'un péril, jaillirent abondamment de ses yeux. Lorsqu'il osa relever la tête, Maud était debout près de lui, calme. Cette fois encore, elle lui posa sa main sur le front pour lui rendre la paix, la main adorable qu'il avait blessée. « Maud, Maud chérie !» Il n'avait plus de force, plus de volonté, plus même de désir. Il voulait seulement la garder près de soi, garder ce qu'elle consentirait à lui laisser d'elle. « Sage ? » murmura-t-elle. « C'est bien, je te pardonne. » Agenouillée près de lui, elle le baisa longuement aux lèvres, lui suçant par là le reste de ses forces. « Crois-moi, lui dit-elle, nous avons été raisonnables. Laisse-moi faire ta vie en même temps que la mienne. Je n'aime que toi. » Elle se relevait, elle se gantait. Il voulut la suivre. « Non, reste là, » commanda-t-elle. « Adieu, ne viens pas à la maison, je t'écrirai. » Il obéit. Constant descenda vers midi, inquiet de n'être pas sonné par son maître, osa pénétrer dans le salon sans être appelé. Il trouva Julien dans la même posture de prostration. « Monsieur dormait ?»« Oui, Constant, laissez-moi, quand je voudrai déjeuner, je vous sonnerai. » Il n'avait pas dormi. Maud partit, il était demeuré là, assommé par ses pensées, l'esprit vague et actif. Il souffrait. En vain, il essayait de reprendre pied dans la vie, de se remémorer les paroles anciennes par où la jeune fille avait comme anéanti sa volonté. Le monde appartient aux forts. Les êtres qui nous sont inférieurs, il faut les brider et les chevaucher comme des bêtes. En vain, il se disait, j'ai tenu Maud entre mes bras avant cet homme. J'ai eu d'elle des caresses qu'il n'aura jamais. Le tressaillement révolté de la jalousie lui répondait, oui, mais elle sera sa femme. Et l'horrible image de Maud possédée par un autre s'évoquait. Oh, je souffre, je souffre. Il souffrait. Contre cela, il n'est pas d'argument ni de théorie qui vaille. Certes, malgré sa souffrance, il restait incrédule aux lois convenues. Rien ne lui prouvait, toujours, qu'une moralité soit enclose dans les caresses, qu'il existe un bien et un mal dans l'amour humain. Mais pourquoi, de sa souffrance même, montait-il en lui un appel violent, désespéré, vers cette loi tant de fois reniée, vers cette loi improuvable ?